Vous êtes sur Sud Radio, il est 20h. Sud
Radio. Parlons vrai.
Dans un instant, l'avant-match du classique du rugby français, Stade Français Paris, Stade Toulousain, du côté d'Ernest Vallon avec toute l'équipe. Mais d'abord, les informations. Valentin Bonjean, bonsoir.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Valérie Ayé est tombée dans un piège. C'est en tout cas ce que dénonce la tête de liste Renaissance aux élections européennes. La candidate a été prise en photo en compagnie de militants d'extrême droite. Un cliché pris hier lors d'une marche qui a rassemblé des centaines de personnes proches des mouvances de l'ultra-droite. Valérie Ayé s'est expliquée sur son compte X en Twitter. Elle n'a pas eu le temps de voir les inscriptions racistes qui figuraient sur leur t-shirt. Ce sont des méthodes indignes, celles de l'extrême droite que je condamne de toutes mes forces, a-t-elle martelé. Un homme placé en garde à vue pour homicide volontaire, ça fait suite à la découverte d'un corps démembré à Paris sous le pont d'Austerlitz. Hier, la victime a été retrouvée dans une valise par des pompiers qui intervenaient sur un feu de poubelle non loin. Le suspect se serait rendu de lui-même aux autorités. Une enquête pour meurtre est en cours. Une rave party qui vire au drame. Dans le Maine-et-Loire, l'un des 10 000 participants à cette fête ont déclaré y trouver la mort aujourd'hui. Il aurait été pris en charge par les secours en état d'arrêt cardio-respiratoire. Ils n'ont rien pu faire pour le sauver. Une enquête est ouverte pour en savoir plus sur les circonstances exactes de sa mort. 180 chefs d'entreprise réunis à Versailles. Demain, c'est la 7e édition du sommet Choose France, un sommet pour booster les investissements étrangers dans le pays. D'après l'Elysée, les investissements devraient atteindre des records cette année. On sait d'ores et déjà que Amazon devrait mettre plus d'1 milliard d'euros sur la table et permettre la création de 3000 emplois dans le cadre du renforcement logistique du groupe américain. Le football, à présent, avant-dernière journée de Ligue 1, ce soir, 7 matchs à suivre à partir de 21h et notamment PSG-Toulouse, le dernier match au Parc des Princes pour Kylian Mbappé sous le maillot parisien. Le prodige quittera le club de la capitale à la fin de la saison. Et puis en foot féminin, les Lyonnaises magistrales s'offrent un ticket pour les finales. L'OL féminin a écrasé Reims cet après-midi. Score final 6-0. Elles affronteront le Paris Saint-Germain dans une semaine en finale de D1 Arkema. C'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à tous.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby, et c'est un grand soir de Top 14. C'est le classique du rugby français, Stade Toulousain, Stade Français Paris. C'est sur Sud Radio en intégralité, comme tous les matchs, toutes les rencontres de Top 14 et de Pro D2. Salut Quentin Cavanis.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Ça va?
Très bien, très très bien.
C'est déjà très bien. Je viens de recevoir un message absolument terrible de Rémi Mességuet qui dit que quelqu'un a déjà essayé de le corrompre pour en haut de l'affiche à 20h30. Rendez-vous à 20h30. On va tenter bien de déterminer quelle était selon vous la meilleure affiche de cette 23e journée du Top 14. Rémi Mességuet qu'on retrouve à 20h30. On est aussi avec David Gérard. Salut David.
Mais quel sale mec. Non mais sérieux quoi. Ça va les gars?
C'est toi qui essaie de le corrompre?
Moi j'ai assisté à la scène.
C'est des bêtises, il est mort de peur, Rémi Mességuet. Il tremblait messieurs. Il est arrivé, je peux pas te faire gagner. J'ai dit, mais je te demande pas, ça va bien se passer.
Je te le demande pas, mais bon, disons que pour ta santé, ton intégrité physique.
Ça va se passer pour toi le match.
Voilà, exactement.
Si je te tombe dessus.
Attention, c'est vrai que c'est ta première participation dans Haut de l'affiche, David. Ce soir à 20h30 avec Quentin Cavanis, avec Antoine Mazer, Clément Combe, Clément et le tenant du titre, il faut bien le rappeler. Salut Clément, bonsoir monsieur. Bonsoir, parce que ce soir c'est monsieur.
Ah bah avec grand plaisir. Merci monsieur Priam. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment va Antoine Mazer, l'ancien stagiaire de Sud Radio?
Ça va. On vient de passer devant la pluie de Massy. On s'est même pas douché. On est venu en studio directement parce qu'on a vécu une après-midi.
De toute façon, tu douches jamais avant de venir à la radio.
Si on te remercie pas d'ailleurs.
Non mais. On a passé une après-midi exceptionnelle de rugby pour tous les rugby, parce que sur Sud Radio on parle de tous les rugby. On va en parler.
Exactement.
Il y a eu un petit exploit quand même cet après-midi du côté de Massy.
Et dans quelques instants, on sera avec Christophe Amassek, l'entraîneur du Stade Langonnais, Langon, qui s'est imposé en finale de National 2. Le récit dans un instant avec Antoine Mazer. Quentin Cavanis,
oui.
Rappelons quand même tous les résultats de cette 23e journée du Top 14, parce que ce soir c'est le point d'orgue donc de cette journée qui a déjà eu, qui nous a réservé quelques surprises.
Ah bah, il y a eu des surprises et il y a eu des défaites à domicile surtout, notamment la défaite de l'USAP face à Clermont 35-28, succès étriqué du Castres Olympique face au MHR 27-26, Pau a battu Oyonnax 39-17, le Racing à Auxerre s'est incliné contre Bayonne 37-28, Toulon a battu le Loup 30-24 et puis hier soir l'UBB a étrié La Rochelle 34-14 avec en plus des mauvaises nouvelles côté Rochelais avec deux joueurs cadres qui sont sortis sur blessure, Botia et Jonathan Danty, les deux, un touché à l'épaule et l'autre au niveau du bras, avec donc des inquiétudes pour les deux joueurs, Alexandre.
Voilà donc les mauvaises nouvelles du côté de La Rochelle, avec en plus un Ronan O'Gara qui a sorti le feu hier, encore une fois en conférence de presse.
Allez, on va évoquer.
Et voilà, exactement. On a quatre grands débats ce soir. On a quelle équipe réalise la meilleure opération de cette 23e journée. C'est dans un instant sur Sud Radio. Ensuite, eh bien, on évoquera la meilleure affiche de cette 23e journée du Top 14. Quelle est la meilleure affiche ? On ira ensuite sur un débat. Montpellier doit-il rester en Top 14 pour le prestige du championnat ? Évidemment, c'est une question un peu provoque, mais il y a quelque chose, je pense, à évoquer autour de ce MHR. Et vraiment, est-ce que la place du MHR est en pro des deux? Et puis enfin, Toulouse, Paris, enfin un classique au sommet. On en parlera tout à l'heure avec nos supporters, avec Grégoire, avec Thibaut, pour revenir sur cette actualité, ce grand classique ce soir du rugby français. Mais avant toute chose, Antoine Mazer, tu étais à Massy, Sud Radio était à Massy, parce qu'il y avait un grand événement, il y avait une finale d'un championnat qui est encore amateur semi-professionnel, la National 2, et il y a désormais un champion, c'est le Stade Langonnais.
Ouais, c'était la première finale de National 2, il faut le rappeler, et il y avait une finale, c'était pas forcément la finale qu'on attendait en début de saison, parce que cette équipe du Stade Langonnais, entraînée par Christophe Amasek, elle montait juste, elle était championne de Fédéral 1, peut-être l'un des aussi des plus petits budgets de la division également, mais c'est un club avec une identité, avec un terroir, avec des entraîneurs passionnés et surtout des entraîneurs de qualité, des joueurs de qualité, défiés. Par contre, là, une équipe auquel on attendait, c'était Marc-en-Barœul, du côté du nord de la France, qui avait, on peut dire, un petit peu surdominé la première partie de saison, même la deuxième partie de saison de ce championnat de National 2. Et en éliminant Rennes en demi-finale, Langon se donnait le droit d'y croire, le droit de rêver. Et ils ont fait un match, une partie. On a eu la chance, on peut le dire, Alexandre, que Christophe Amasek nous ouvre pour Sud Radio l'intimité du vestiaire.
Raconte-nous comment ça s'est passé. T'arrives à la Doumègue, le stade mythique du RCME.
De Massy, voilà, c'était à Massy. Exactement, c'était le stade de Massy. C'était un lieu important parce que Marc-en-Barœul avait joué sa demi-finale là, et on se disait il y allait avoir énormément de supporters de Marc-en-Barœul parce qu'il y a 600 km entre Langon et Massy. Mais non, il y avait quasiment 50-50, il y avait presque 1000-1500 supporters de Langon qui étaient là cet après-midi. On les entendait, ils ont fait énormément de bruit. Et puis Christophe Amasek, Romain Cabane, qui est également l'entraîneur adjoint de cette équipe de Langon, et ben ils ont préparé leur match, ils m'ont fait venir dans le vestiaire. Les avant, les trois quarts étaient séparés, ça sentait cette petite odeur un petit peu de baume du tigre. On sentait beaucoup de décontraction, alors que du côté un petit peu de Marc-en-Barœul, un petit peu plus de pression parce qu'ils étaient favoris de cette rencontre. Et tout au long de cette préparation, on a pu voir la répétition. Il y a des joueurs de très grande qualité, on pense à Maxime Gau notamment dans cette équipe de Langon, qui a joué au Stade Français Paris notamment. Pas mal de joueurs qui sont passés par la Nationale 1 avec l'Union Cognac Saint-Jean-d'Angély. On pense à Vinicia, le numéro 15. Et un temps magnifique, un temps exceptionnel, on a eu le droit du côté de Massy sur la première mi-temps, avec énormément de jeux, énormément d'intentions de jeu. Et Christophe l'a dit à la mi-temps, on va écouter d'ailleurs la causerie, mais il y allait avoir un orage qui allait venir sur cette deuxième mi-temps, qui allait totalement tout changer.
Vous vous rendez compte, on est au top, dans la tribune, on est au top qu'eux, on a 600 bornes. Pour tous ces gens qui sont encore venus, pour les 600 personnes qui nous soutiennent, on ne peut pas lâcher. Il reste 40 minutes, on n'a pas le droit de lâcher. Ok, j'en veux pas qu'il lâche, même si c'est juste. Pensez à tous les copains qui jouent pas, pensez à tous ces gens-là, ok. Pensez à vos familles, à vos amis.
On n'abdique pas, jamais. On lève la tête, on est plus fort qu'eux. C'est ça qui va nous faire gagner, les gars, d'accord? C'est ça.
Voilà donc Christophe Amasek qui est avec nous sur Sud Radio en direct. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
dans le bus, retour vers la Gironde, avec une ambiance assez folle. Merci d'être sur Sud Radio. Vous êtes un entraîneur champion, Christophe Amasek, un fidèle aussi de Sud Radio Rugby. Déjà bravo au nom de toute l'équipe Sud Radio Rugby. Bravo au Stade Langonnais, petit budget, mais grand cœur.
Ouais, merci beaucoup. Mais ouais, effectivement, il y a un grand cœur dans ce club. Il y a un staff qui s'entend très bien. Il y a des joueurs qui sont très très généreux, qui donnent énormément, qui sont aussi à l'écoute. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, ça fait peur, hein, là, quand on s'entend parler fort. Et à la mi-temps, je leur dis, les gars, ils étaient dominateurs quand même, ils jouaient énormément sur l'extérieur, à le déployer. C'était très très juste si on ne prend pas d'essai. Et on défend bien. Et je leur dis à la mi-temps, il va pleuvoir. Il va y avoir de l'orage. Et ça va être comme un quart de finale contre le Stade Métropolitain. Et c'est vrai qu'on a eu l'habitude de jouer des rencontres comme ça, parce qu'après, c'était un autre rugby qu'il fallait pratiquer, un rugby de conquête, de défense, d'occupation. Et ça nous a souri.
Avec un scénario, Antoine Mazer, assez rocambolesque, une finale très émouvante en plus.
Ouais, parce que Langon marque tout de suite, fait un début de match canon, marque ce premier essai. Il y a un essai d'abord refusé, puis ça marque tout de suite. Puis Marc Ambarel finalement va dominer, mais cet élan de solidarité en défense a été impressionnant, parce que Langon Marc Ambarel va jamais réussir à marquer cet essai. Et ils vont mener à la mi-temps 7 à 3 à la mi-temps pour Langon. Et justement, c'était là où on a vraiment senti qu'il y avait énormément d'émotion parmi les joueurs, parce que ils se sont battus pour un maillot, et ce maillot c'était Langon. Et on a senti que cette deuxième mi-temps là ça ne pouvait pas leur échapper, Christophe. Vraiment, on a senti beaucoup de cohésion tout au long de la rencontre, et cette défense là de Langon, on a senti que c'était bien plus que des coéquipiers qui se battaient aujourd'hui.
Bah, effectivement, nous on a joué merveilleusement l'opposition du Nord contre le Sud-Ouest. Avec Romain, on a dit que dans notre ADN, il y avait l'équipe de Mont-de-Marsan, de Dax, les trois quarts de la Gironde Ballonnée, nos copains proches de l'UBB, et que dans le Sud-Ouest, on avait du panache, et qu'il fallait défendre ce maillot avec du panache. Et ils l'ont fait à merveille.
Et vous êtes mené à un moment donné parce que il y a des conditions qui sont dantesques. Vous prenez un essai à peu près vers la 60e minute de jeu. Les conditions de jeu, c'est impossible. Il y a aucun lancer qui est droit. Il y a aucun coup de pied qui n'arrive là où on veut. Il y a quasiment que des flaques d'eau. C'est pas du tout. Il y a plus de plan de jeu à ce moment-là. Et il y a votre numéro 10 qui claque un drop sous des conditions incroyables et qui vous permet de repasser devant. Racontez-nous un petit peu ce moment-là, Christophe, parce que qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour sortir ce drop-là dans des conditions qui sont presque impraticables?
Alors d'abord, il y a de la stratégie, c'est-à-dire il fallait jouer au près, jouer dans l'axe profond, un peu serrer leur défense, pas faire de passe, tout simplement. Ça bouge maximum des poteaux. Et Christelle, qui est un joueur qui a un talent hors norme, c'est un gars talentueux, qui a des coups de génie, tout comme des qui peut nous faire aussi n'importe quoi. Ben là, il était dans un grand jour et il claque un drop dans ces conditions qui est magnifique, puisqu'il passe à haut des perches. Et là, on scelle le match.
On avait Christophe Amasek en direct dans le bus du Stade Langonnais après sa victoire et ce titre en finale donc de National 2. Christophe, on sait que tu es un homme de réflexion. Tu as mis la pression sur la mairie de Langon il y a quelques temps parce qu'il n'y avait pas de terrain disponible pour s'entraîner, parce qu'il n'y avait pas de moyens mis au service du club. Est-ce que le Stade Langonnais peut se structurer pour être en National, et est-ce que ce sera avec Christophe Amasek?
Oui, bien sûr que le Stade Langonnais va être en National 1.
Ça, c'est l'info, avant que ça coupe. On t'a perdu, Christophe. Tu nous as dit, bien sûr, que le Stade Langonnais sera en National 1. C'est là où on t'a perdu, on te récupère.
Alors, bien sûr que le Stade Langonnais va jouer en National 1 l'année prochaine. Il y aura un autre management, il y aura d'autres objectifs. Mais on va essayer de défendre en couleur avec panache. Et puis, on va essayer de faire avancer le rugby à Langon, puisque c'est vrai qu'on a besoin tout simplement de choses pas très compliquées pour travailler, mais... Et voilà, ça, on risque d'en parler dans les semaines à venir, pour que les joueurs et tous les joueurs du club, pas seulement les équipes premières, puissent jouer aussi dans des bonnes conditions, parce que voilà, je préfère que les gars soient au stade à jouer dans l'Oval plutôt que plutôt qu'à l'extérieur où on peut être tenté par faire des conneries. Quoi. Je crois énormément au rôle sociétal des rugby et c'est pour ça que j'aime aussi Stop.
Merci beaucoup Christophe Amastek. Encore bravo au Stade Langonnais, club de l'Est Gironde. Ah, ça chante dans le bus.
Voilà. Au revoir.
Voilà, c'est ça. Sud Radio Rugby, la radio de tous les rugby. Place maintenant au top 14. On va revenir sur cette 23e journée, mais quand même, cette émotion, on a tous connu, pour ceux qui ont eu la chance de gagner un titre, mais aussi des derbies, des choses comme ça. Ces retours dans le bus, David Gérard, c'est quelque chose qui te manque, toi, consultant Sud Radio Rugby, sélectionneur de la Roumanie, toi qui as beaucoup œuvré dans le rugby professionnel, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Est-ce que cette étincelle-là, tu l'as toujours, toi, David? Est-ce que tu la recherches?
Je crois que je suis un des derniers Mohicans, je pense, à l'avoir. J'en ai besoin, je te dirais. Je te dirais que j'ai besoin de ces moments-là et c'est des moments très humains en fait. Et aujourd'hui, l'humanité dans le monde professionnel, des fois on l'oublie et on n'est que sur la performance, mais aujourd'hui tu peux mettre de l'humain dans la performance et surtout après quand tu gagnes, eh bien, l'humain prend le dessus. Moi, ça a été le cas à la Coupe du Monde avec les Portugais. On était une bande de copains quoi. En tout cas, le staff était une bande de copains. Il y avait des joueurs, on faisait vraiment un vrai groupe. Et l'humain était au centre des débats avec Patrice Lagisquier. Et c'est vrai que ça a été une expérience fabuleuse pour ça. Donc oui, je suis un gros partisan de ce genre de moment.
On va parler donc de cette 23e journée du top 14. Je rappelle les résultats. Le succès de Clermont à Perpignan, 35-28. De Castres face à Montpellier, 27-26. Victoire bonifiée pour Pau face à Oyonnax, 39-17. Victoire à l'extérieur de Bayonne au Racing 92 à Auxerre, 37-28. Victoire de Toulon face à Lyon, 30-24. Et puis le succès sans partage de Bordeaux-Bègles face à La Rochelle, 34-14. Quelle équipe réalise la meilleure opération de cette 23e journée? Bonsoir Philippe.
Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous Philippe, auditeur Sud Radio Rugby grenoblois. On va pas parler de Grenoble là directement, mais je sais que voilà, on sait que tu es un fidèle amoureux de rugby, un fidèle auditeur de Sud Radio. Qui réalise la meilleure opération de cette 23e journée? Est-ce Clermont qui est de retour peut-être au premier plan? Est-ce Bayonne qui punit l'inconstance du Racing? L'UBB qui roule sur La Rochelle, Pau avec le bonus, ou Toulon qui s'en sort?
Je pense que les Palois font une belle opération parce qu'ils se rapprochent de la sixième place. Ils sont juste maintenant derrière La Rochelle. Et pour moi, en battant Oyonnax voilà, assez largement, ils font la belle opération et ils se préparent et ils se présentent pour cette qualification.
Le choix de Pau est intéressant. Bonsoir Léo. Léo de Bayonne, bonsoir. Est-ce que tu es avec nous?
Oui,
ah.
Bonsoir.
Ah, salut Léo. Bienvenue sur Sud Radio, auditeur Sud Radio Rugby, au 0826-300-300. Alors, qui réalise la meilleure opération? Philippe nous parle de Pau, et moi je suis plutôt d'accord, c'est vrai que c'est un bonus offensif, d'ailleurs c'est le seul bonus offensif à ma connaissance. Non, il y a aussi l'Union Bordeaux-Bègles, évidemment, mais jusque-là, c'était le seul jusque... Oui, je voulais un petit peu le mettre de côté, mais malheureusement, mon travail sur le fact-checking m'est revenu, et effectivement, l'Union Bordeaux-Bègles aussi a eu un bonus offensif. C'est pas passé loin pour Bayonne d'ailleurs ce bonus offensif, l'Aviron qui a fait un match énorme. Est-ce que tu choisis Bayonne comme meilleure opération, toi supporter bayonnais?
Moi forcément je vais les choisir parce que déjà notre course à nous c'est le maintien et pas le top 6, donc c'est vrai que Pau est un très bon candidat. On aurait pu aussi parler de Clermont qui fait une très très belle opération et qui ce championnat est tellement serré, tellement fou qu'ils se replacent à la fois, ils se prennent de l'air sur la zone des barrages et d'un autre côté ils se replacent aussi un petit peu dans la course pour le top 6. Mais oui, obligé pour moi de mettre Bayonne. On a fait une énorme performance. On savait que des 4 derniers matchs sur le papier c'était peut-être le plus compliqué. On affrontait une énorme équipe du Racing au complet. On avait besoin de points, on était sur une spirale très négative, donc c'est vrai que à raison, peu de monde nous voyait gagner au Racing, et là on prend 8 points d'avance sur Montpellier et même théoriquement 9 puisque au goal average on est devant eux, donc franchement à 3 journées de la fin quand même on respire énormément et fait beaucoup beaucoup de bien cette victoire, donc pour moi forcément, en tout cas pour la lutte pour le maintien, c'est nous qui faisons la meilleure opération de cette journée.
David Gérard, en direct du stade Ernest Vallon. Quel est ton choix, David? Est-ce Clermont qui est donc de retour au premier plan avec cette victoire à Perpignan? Est-ce Bayonne qui a donc puni l'inconstance du Racing? Est-ce que c'est l'UBB? Est-ce que c'est Pau? Est-ce que c'est Toulon? Qui réalise la meilleure opération pour l'instant jusque-là, selon toi?
Ouais. Alors moi je dirais Toulon. Je dirais Toulon. Pourquoi ? Parce que ce match face au Loup est loin d'être évident. Pour moi, le Loup a le niveau de ne pas être dans la position où elle est à l'heure actuelle. Le Loup peut battre n'importe qui dans ce championnat, et je dirais même n'importe où. Et ils l'ont prouvé en faisant un match énorme à Toulon. Et Toulon, ils ont dû vraiment, vraiment cravacher pour sortir de ce piège-là. En gagnant, ils s'installent un peu plus dans les 6, même s'ils ne sont toujours pas rassurés, bien sûr. Mais ils confortent leur place dans les 6. Et comme je t'ai dit, c'était le match piège. C'était le match que j'attendais parce que Lyon, le match face à Pierre Mignoni, qui a construit cet effectif lyonnais, qui est arrivé avec 90% de joueurs que Pierre avait fait venir. C'est tout ça qui a fait que pour moi, le match de Toulon a été vraiment grandiose. Chassé croisé, fabuleux.
Ouais, j'ai commenté le match, je me suis régalé entre Toulon et Lyon. C'est à la fois très très cruel pour les Lyonnais, pour le rugby d'ailleurs de cette région-là, même si on parle pas de rugby alpin pour les Lyonnais évidemment. Philippe, t'as forcément un regard sur Fabien Gégenbacher, l'ancien homme fort de Grenoble, club dont tu es supporter. T'as forcément un œil particulier sur le Loup.
Oui, effectivement, Fabien Gégenbacher, c'est quelqu'un qui est fédérateur, c'est un garçon qui a été critiqué quand il a pris le club du FCG pour son inexpérience. Et on voit aujourd'hui que, en étant au top 14, comme vient de le dire David, Lyon aujourd'hui c'est une équipe qui peut gagner partout, qui peut battre tout le monde, alors qu'effectivement est pas très bien placé, ça c'est vrai aujourd'hui au classement. Mais en attendant, c'est une équipe qui est dangereuse. Et Fabien Gégenbacher, c'est quelqu'un, avec Arnaud Egui aussi, qui était à Grenoble l'an passé, enfin il y a 2 ans, ou l'an passé, pardon, excusez-moi. Effectivement, c'est un duo qui arrive à sortir la quintessence d'un groupe, et même si c'est difficile, ils arrivent aujourd'hui à être présents. Donc oui, c'est quelqu'un qui est très important pour le Loup, mais effectivement qui n'est plus alpin aujourd'hui.
Vous êtes sur Sud Radio, vous entendez l'ambiance d'Ernest Vallon à 40 minutes du classique entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris. On se pose cette question, quelle équipe réalise la meilleure opération de cette 23e journée? On est avec Philippe et Léo, auditeurs grenoblois et bayonnais. Personne ne mentionne l'Union Bordeaux-Bègles.
Et personne ne mentionne Castres non plus.
Oh, Quentin,
doucement, du coup, t'es à un point du maintien. Et si tu perdais, je peux te dire que t'avais peur sur la dernière journée. Vu la dynamique.
Personne ne mentionne le bonus offensif de l'UBB face à La Rochelle. C'est quand même... C'est quand même une anomalie, ça, Léo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Est-ce que c'était pas attendu un peu?
Bah si, c'est vrai. Moi, c'est comme je te disais, moi, je suis plus concentré sur, on va dire, la course au maintien. Donc, les résultats que je scrutais un peu plus, c'était ceux de forcément Montpellier, Oyonnax et aussi le Loup. Mais oui, bien sûr, on peut mentionner là encore la nouvelle grosse performance de l'UBB qui a
laissé vraiment, aucune chance à La Rochelle, hein, quand même. Hein. Aucune chance.
Très très clairement. Oui, on peut complètement.
Un petit La Rochelle.
On peut. C'est sûr qu'en termes d'opérations, surtout qu'en plus le 1 et le 2, donc Toulouse et Stade Français s'affrontent ce soir. Donc quoi qu'il arrive, ils vont faire une bonne opération cette journée. Bonus offensif en plus. Ils ont un calendrier sur les 3 dernières journées qui sont quand même abordables pour eux. Donc oui. Moi Bordeaux, de toute façon, si on doit parler un peu pronostic, je les vois aller minimum en demi-finale, voire en finale. Donc ça confirme juste le bien que je pense de cette équipe qui est très très solide.
On va quand même donner la parole à Quentin. Pourquoi Castres, Quentin?
Mais explique-nous. Qu'est-ce que je te disais? Parce que je pense que si Castres perdait contre Montpellier, et ça n'a pas été loin d'être le cas, Castres était en danger sur la fin de saison. Il pouvait paniquer parce qu'il y avait une énorme dynamique très mauvaise.
Oui, mathématiquement, c'était quasiment fait, et c'est quasiment fait aujourd'hui. Oui. Il y a 14 points d'avance sur Montpellier. Bon, voilà. La Rochelle s'est maintenue hier, par exemple.
Voilà. Mais...
En perdant.
Mais bon, Castres, il y avait deux types. Soit tu avais peur sur la fin de match, sur la fin de championnat, sur les 3 dernières journées, tu transpirais en regardant en bas. Soit t'as un espoir de qualif. Et il peut rester un espoir de qualification. Alors faudra jouer autrement pour les castrés, évidemment. Mais comptablement, ils sont pas si loin finalement. Ils ont 54 points. Le 6e, La Rochelle, a 56 points. Donc tu vois, 2 points, tu peux passer dans le top 6.
Bon, il faut trancher. Il faut faire trancher. Qui a réalisé la meilleure opération de cette 23e journée? Antoine Mazer, on a du Toulon, on a du Bayonne, on a de l'UBB, on a du Castres.
Et Clermont. Et...
Ah!
Et moi, j'ai envie de dire
Clermont.
J'ai le droit. Je peux.
Oui, bah, ah oui, tu peux. Et d'ailleurs, dans un instant, on va écouter. On va écouter Christophe Furios. Ça tombe bien.
Parce que je trouve que après justement cette demi-finale, on en a beaucoup parlé. Ben, fallait se remettre dedans parce que c'est une déception et c'est dur parce que cette saison, elle était très galère pour Clermont et ils pouvaient sauver ça avec la Challenge Cup. Il fallait se remettre dedans. Ils ont été chercher à Perpignan où finalement très peu d'équipes sont allées gagner cette saison à Perpignan.
9 matchs sans défaite à domicile.
Ouais, avec une moyenne de presque plus de 30-35 points marqués à l'équipe adverse à domicile et ils ont été la chercher parce que il fallait aller la chercher. Donc moi j'ai envie de mettre Clermont, ils ont été chercher.
C'est un sacré match. Hein.
Ouais.
C'est vraiment sympa à suivre.
Ah oui. Quentin commence pas. Quentin commence pas. Dans un instant, en haut de l'affiche, on essaiera de déterminer quelle est la meilleure affiche et quelle a été la meilleure affiche. Et Quentin, il est déjà en train de grignoter son temps d'antenne.
Ah, ok, j'ai compris. Ok, d'accord.
Oui. Mais voilà, évidemment. On va écouter Christophe Furios. Très heureux de la victoire de la SM. Il était au micro Sud Radio de Rémi Ruggiero. On l'écoute.
Le lien, c'était une semaine extrêmement courte, puisqu'on a repris que mercredi. On avait besoin d'évacuer la déception des Sharks. Deux, on avait besoin de faire bouger les lignes sur l'équipe aussi. Et c'est vrai que quand on est dans des situations comme ça, très souvent, on n'avait pas d'équipe en fait sur le terrain. Quoi. Et on a laissé beaucoup trop de situations favorables à cette équipe. Quoi. Après, en deuxième mi-temps, on a rectifié le tir. Les rentrants ont été très bons, je trouve. Aujourd'hui, ouais, on a vu une équipe laborieuse dans un premier temps et souveraine en deuxième mi-temps.
C'est vrai.
On va écouter c'est plutôt vrai effectivement ce que dit Christophe Furios. On va écouter un autre entraîneur au micro de Dorian Malvezin, c'est Ronan O'Gara, parce que je vais vous poser la question dans un instant. La Rochelle ou le Racing 92, quelle équipe vous a le plus déçu dans cette 23e journée? Écoutons d'abord Ronan O'Gara qui est pas très confiant.
Inquiet, mais pour être inquiet, je dois oublier ça par demain matin parce que c'est moi qui dois monter le chemin pour le prochain 3 matchs. Tout est possible. On sait que c'est le plus fou championnat dans le monde. Mais le but pour nous, c'est d'être là. On n'est pas là. On est loin d'être là. Sur le match contre Pau, hyper important. Même si on n'a pas vu pour quelques semaines, quelques mois, j'entraîne des compétiteurs. Mais je pense qu'on va le faire.
Voilà, il a l'air quand même confiant, ouais, Ronan O'Gara.
Beaucoup de choses à oublier en ce moment.
Tout en ayant complètement descendu les siens, c'est certains cadres qui n'étaient pas là, qui ne sont pas au rendez-vous du rugby professionnel. Voilà, il était quand même passablement en colère. Alors, Ronan O'Gara hier au micro Sud Radio. Quelle équipe vous avez le plus déçu? Quelle équipe, est passée complètement à côté de la 23e journée, Philippe?
Alexandre, tout à l'heure, tu disais que personne n'avait cité la victoire de Bordeaux-Bègles, mais peut-être aussi parce que cette victoire, elle est attendue et qu'aujourd'hui, La Rochelle ne fait plus peur. C'est plus La Rochelle champion d'Europe, c'est La Rochelle en difficulté. Et effectivement, cette équipe, elle est assez décevante. Alors, Ronan O'Gara dit qu'ils sont là, c'est vrai, pour l'instant, ils sont sixième. Tout est possible après sur des matchs de phase finale. Mais en attendant, je trouve que La Rochelle peine. La Rochelle est en difficulté et c'est une équipe qui ne fait plus rêver dans son jeu aujourd'hui.
Léo de Bayonne, est-ce que tu partages le même constat que Philippe, auditeur Sud Radio, sur La Rochelle, ou est-ce que c'est plutôt le Racing qui t'inquiète, toi?
Non, moi je partage le constat, c'est plutôt La Rochelle. C'est vrai que sur le contenu en tout cas de cette journée, on a quand même senti le Racing à plusieurs moments. Ils ont entamé le match avec un énorme 14-0 en 6 minutes. Enfin, on a senti à plusieurs moments qu'ils étaient dans le match malgré tout. Là où La Rochelle a été, je trouve, beaucoup plus inquiétant et sur la globalité du match a été dominé. Donc si je devais choisir une de ces deux équipes, et ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup les Rochelais et cette ville, mais là sur la journée d'hier, c'est clairement les Rochelais qui m'ont le plus déçu. Et je sais que ça te fait pas plaisir, Alex, mais pour moi, c'est ceux qui vont à l'avant du bus.
Tu sais, moi j'ai juste une liste de gens que je déteste. Je rajoute des mots. Mais écoute, le problème c'est que je suis sur une feuille à trois désormais et on est bientôt sur un panneau publicitaire là. Ça commence à faire beaucoup. Non, mais plus sérieusement, enfin, j'ai rien à dire à part dire que vous avez raison. Enfin, David, toi qui est quand même t'as une grande carrière de joueur, une grande carrière d'entraîneur. Là, si t'étais coach, à la tête de quelle équipe tu serais plutôt inquiet là?
La Rochelle.
Oh.
La Rochelle, parce que des bruits, oui, on en a. Je sais que le torchon brûle un petit peu en interne.
Ah, ça, oui. Non, mais tu peux le dire, voilà. on peut parler vrai. C'est le bordel absolu entre les joueurs et le staff.
Attends, Et puis, à partir du moment où
enfin, les joueurs, en plus, hein.
quel qu'il soit, lâchent un staff, commencent à lâcher un staff, tu as des prémices en fait. Et malheureusement, quand tu vois l'équipe alignée de La Rochelle sur certains matchs et la prestation derrière, tu les reconnais pas. Et ils sont, tout le monde est déçu de La Rochelle parce qu'on les attend pas à ce niveau-là. On les attend à se battre pour un titre. Hein. Mais aujourd'hui, ils sont même pas sûrs de se qualifier et ça va être compliqué même de se qualifier. Donc oui, pour moi, la grosse déception actuelle, c'est La Rochelle parce qu'il y a un potentiel monstrueux.
Mais alors, une équipe où il y a des conflits dans le staff, généralement, ça va pas bien loin. Quoique, 2011, l'équipe de France, voilà. Peut-être que les joueurs peuvent prendre les choses en main, mais je sens que... Le Stade français en début de saison, c'est que c'était très très tendu. Et au final, il y a des choses qui se sont mises en place. C'est pas fini pour La Rochelle. Enfin bon, il reste quand même 3 matchs hein, avant les phases finales. Merci Philippe, merci Léo d'avoir été avec nous. Votre pronostic pour ce soir, Stade Toulousain, Stade français Paris. Philippe, ton prono?
Stade Toulousain.
Stade Toulousain pour Léo.
Ce sera Stade Toulousain. Et un dernier petit mot aussi, pas mal de baïonnés. Merci à Taylor Swift aussi également. Grâce à elle, on a délocalisé. Donc, il fallait lui faire une petite mention. Et quand elle veut, elle peut venir chanter la peignée à Jean Daugé.
Ah bah, ce sera peut-être mieux que Patrick Boel. Mais c'est a priori pas les paroles.
Alexandre,
c'est oui. Pas le même budget, les gars.
Elle pourra pas faire et Bayonne et Grenoble, hein, Taylor.
Oui Philippe, on t'écoute.
Je voulais juste faire une petite dédicace. On parlait du Stade Toulousain là à l'instant à nos féminines à Grenoble qui ont
justement
battu le Stade Toulousain aujourd'hui pour se qualifier pour les quarts de finale du championnat.
Bravo.
Donc je voulais leur faire un petit clin d'œil, leur dire bravo et puis la semaine prochaine elles vont avoir un gros match à Clermont-Ferrand puisqu'elles vont aller jouer contre l'ASM Romagna et de Jesse Trezeguet. Donc voilà, je voulais leur faire.
Tu fais bien de le dire Philippe. Et tu sais que là, David Gérard, il t'écoute. David Gérard, fondateur du Stade Toulousain rugby féminin.
Oui.
Donc,
je veux pas dire de bêtises. Bon, le stade, ils y sont allés avec des cousines. Hein. C'est les cousines qui ont joué cet après-midi. Hein.
Ouais, effectivement,
il y avait beaucoup de filles au repos.
Il y avait mais pas mal de filles au repos, effectivement. Et en tout cas, nous a permis à Grenoble de pouvoir garder cette troisième place et de se qualifier. Donc, merci David pour le Stade Toulousain. Et puis,
c'est gentil. Voilà,
c'est super. Tu viens nous voir à Grenoble quand tu veux, avec plaisir.
Ah bah, t'inquiète pas, il va y aller. Merci Philippe, merci Léo. Dans un instant, en haut de l'affiche sur Sud Radio, quelle était la meilleure affiche de cette 23e journée? On se pose la question, il va y avoir des grandes plaidoiries, des grands déçus aussi. À tout de suite.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Ah, ce petit appartement, vous l'avez acheté, retapé, vous l'avez prêté à votre petit-neveu et puis vous pensiez le revendre, mais en fait, non. Vous l'avez loué à Madame Martin. Et à Matou aussi. Vos biens immobiliers ont plusieurs vies, mais nous, on ne peut pas le deviner. Alors pensez à nous dire qui occupe vos logements sur impots.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
SoCook. Alors nous, on voudrait une cuisine...
Avec des tiroirs qui font... Chut.
Mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux, quoi.
Voilà.
Avec SoCook, tout est clair pour votre cuisine, même si vous ne l'êtes pas toujours. Voilà pourquoi, dès le premier rendez-vous, vous obtenez un plan, des vues 3D et le devis détaillé de votre cuisine.
SoCook.
SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Et merci à tous ceux qui ont élu SoCook meilleure enseigne de cuisine 2024 pour sa qualité de service.
Sud Radio Aix-en-Provence
95.1
Sud Radio.
On va aux courses de chevaux dimanche. Il y a plein d'animations et c'est gratuit pour les enfants.
Dimanche 12 mai, venez faire la fête sur l'hippodrome de Carcassonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 08 89 47 68.
À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store.
Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam.
Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, une demi-heure du coup d'envoi du classique du rugby français, Stade Toulousain, Stade Français Paris. On est en direct d'Ernest Vallon avec toute l'équipe, avec David Gérard, avec Quentin Cavanis, Antoine Mazer, Clément Combe. Vous au 0826 300 300 et nous rejoint Rémi Mességuet. Salut Rémi.
Salut Alex, salut à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour ce classique ce soir ici à Ernest Vallon.
Ouais, ça va être un grand moment de la saison avec les deux meilleures équipes du championnat. On en parle tout à l'heure à 20h45, 20h50 on va dire à peu près dans ces eaux-là. Mais d'abord,
en haut de l'affiche.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà
en haut de l'affiche. Eh oui, qu'est-ce que c'est? C'est la séquence où on va tenter de déterminer quelle était la meilleure affiche de cette 23e journée du Top 14. On rappelle les résultats. Quentin Cabanis, quelles affiches sont disponibles, les 6 premières de cette 23e journée?
Et bah d'abord, USAP Clermont avec le succès clermontois à l'extérieur, 35 à 28. Castres Montpellier, 27-26 pour les castrés. Ensuite, le succès de la section paloise face à Oyonnax, 39 à 17. Bayonne qui a été gagné à Auxerre contre le Racing 92, 37 à 28. Toulon qui a battu le Louvre, 30 à 24, et puis l'UBB qui a battu La Rochelle 34 à 14.
Voilà donc pour les résultats de cette 23e journée. Comment ça se passe? Chacun aura 30 secondes pour défendre eh bien son affiche. On va jouer avec des avocats ce soir. Julien Thomas n'est pas là.
Non.
J'ai l'habitude de lancer Julien, moi. J'ai l'habitude de lancer Julien Thomas. Ça me fait de la peine. Julien, on pense à toi, on t'aime. Il va très bien, rassurez-vous. On est avec Antoine Mazer, Clément Combe, avec Quentin Cabanis et David Gérard. Chacun a choisi une affiche. Personne ne sait qui a choisi quoi. Seul moi. Moi, je sais, parce que c'est moi qui organise. Il y a un juge ce soir. Monsieur le juge, bonsoir. Votre honneur, Rémi Mességuet.
Bonsoir. Je peux déjà dire une chose, c'est qu'on a essayé de me soudoyer. Il y a deux personnes qui ont essayé de me soudoyer, mais c'est comme les affiches, je n'irai pas qui.
Antoine Mazer et non. David Gérard.
Ah non.
Sauf qu'il y en a une qui est plus dangereuse que l'autre.
Il y en a une qui est plus loin que l'autre, quoi, factuellement.
Rémi Gérard. Oui, c'est pas une question de distance, hein, c'est une question de hauteur, de taille, de plein de choses comme ça. Comme ouais.
De bras. Mais il y a certains sujets où j'ambitionne de le rattraper. Hein.
Rémi, j'ai rien envoyé. Hein.
Souvent, c'est ceux qui ont le plus de choses à se reprocher qui parlent, hein, avec Antoine. Fais attention.
Attention, Antoine.
Alors, chacun choisit une affiche, chacun aura 30 secondes pour faire sa plaidoirie. Mais alors, dans quel ordre? On rappelle que le tenant du titre est Clément Combe, qui avait gagné vendredi soir pour se projeter sur quelle sera la meilleure affiche. Mais alors, du coup, Rémi Mességuet, qui s'élance en première position?
Eh bien, honneur au vainqueur de vendredi, Clément Combe.
Ouais, merci beaucoup.
Clément Combe va devoir donc s'élancer. Il a 30 secondes, Clément, pour défendre quelle affiche? Pour défendre Racing Bayonne. 30 secondes, c'est parti.
Mais oui, Racing Bayonne, un duel en ciel et blanc dans un stade, dans le stade d'un club de foot aux couleurs. Ciel et blanche, match où les deux équipes jouent à l'extérieur, assez rare. Quoique le Racing joue peut-être plus souvent à l'extérieur qu'on ne le pense. Pourquoi c'était la meilleure affiche de cette journée? Parce qu'il y a tout eu dans ce match. Il y en a un qui ne s'est pas posé de questions. C'est Joshua Tuissova. Un essai au bout de 29 secondes de jeu. Un carton rouge de Fabien Sangoni, un carton jaune de Calandré pour les Bayonnais. 8 essais, des casquettes comme des essais du bout du monde. Bayonne reprend l'air pour assurer son maintien. Le Racing 92 loupe l'occasion de se conforter dans les 6. Il y avait de tout hier.
Voilà donc. Eh bien, Clément Combe qui a défendu Racing 92 Bayonne. C'est à la fin qu'on payera les musiciens, évidemment. À la fin du bal, Rémi Mességuet, c'est à la fin qu'on fera le classement. Il y aura d'abord le troisième, le deuxième, puis premier et quatrième, vainqueur et misérable. Eh bien, dans le même temps, on donnera même pas le nom du perdant. Il ne le méritera pas.
Ah si, il le mérite parce que la dernière fois, moi j'ai perdu et honnêtement, c'était pas mérité. Donc même si c'est pas mérité, je dirais qu'il est
quand même. Ok, bon, tu veux du sang, t'es au bon endroit, il n'y a pas de problème. Donc Rémi Mességuet a pris bonne note sur la plaidoirie de Clément Combe, qui est le deuxième à s'élancer, Rémi.
Quentin Cabanis.
Quentin Cabanis, qui va donc défendre durant 30 secondes l'affiche Perpignan-Clermont.
Eh oui, c'était peut-être pas le match le plus sexy sur le papier avant le coup d'envoi, mais les deux équipes nous ont donné une rencontre très sympa à suivre, avec notamment un retournement de situation et puis des actions de classe. Il y a eu une grosse ambiance et puis on pense notamment à Veredamou qui a prouvé encore une fois que c'était un joueur hors norme avec un cul terrible sur le pauvre Newsom. Et puis bah il y a l'USAP qui a bien démarré, qui a pris les devants, mais ensuite Clermont, dans le sillage de son numéro 9, Baptiste Jauneau, est reparti avec un succès bien mérité. L'USAP qui est resté sur 9 succès à de la maison a perdu.
Donc Veredamou a un cul terrible. Bah, c'est vraiment de contre pour
lui. Il a mis un cul terrible, j'ai dit.
J'ai un doute, je crois que t'as dit il a.
Mais il a peut-être un cul terrible aussi. Mais qui sommes-nous pour juger finalement?
C'est vrai, qui sommes-nous? On ne juge pas. On constate les mots de Quentin Cabanis. Hey. Quentin qui a donc défendu durant 30 secondes, parce que du coup j'ai rien entendu de ta plaidoirie, je suis resté sur le cul de Veredamou, moi.
Tu ne penses pas?
J'ai suivi.
Merci Clermont Perpignan.
Merci Rémi.
Perpignan Clermont, ça a donc été défendu par Quentin Cabanis. Qui est le troisième à s'élancer, Rémi Mességuet?
Antoine Mazer.
Antoine Mazer qui va devoir défendre pour Oyonnax.
Et oui, il fallait aller du côté du stade du Hameau ce week-end pour voir l'affiche de Top 14. Philippe le disait, bien sûr, notre auditeur tout à l'heure. Ce score de la section paloise, cette victoire bonifiée 39 à 17 avec notamment un essai de fou de Daubagnel à travers le terrain. Il a fait vibrer toutes les personnes qui ont vu ce match ou toutes les personnes qui aiment le rugby tout simplement. Au classement, c'est une super opération pour la section paloise parce qu'ils reviennent à un petit point de ce top 6. Pourquoi rêver pour la section paloise? Parce que la semaine prochaine, ils se déplaceront au stade Rochelet. Et forcément, un La Rochelle-Pau, ça fait forcément rêver. Bravo à section paloise.
Ah, mais lui, il nous fait l'affiche la semaine prochaine.
Non,
ouais,
non
mais... ça, c'est ce que j'allais dire.
Pas du tout.
Faut pas se tromper deux jours. Hein.
Oh là là. Ah, ça s'appelle un sujet hein, au bac.
Ça promet. Quentin, t'es vraiment une très mauvaise personne, hein, vraiment. Moi, franchement, je sais que je suis pas tout blanc, tout neige, voilà, mais alors toi, pouah, ouais, mais quel vilain personnage.
Ça, je le sais, parce que si toi. T'avais. Alexandre, avec le contentieux qu'on a depuis la dernière fois, t'aurais joué, t'étais quatrième hein, ce soir. C'est.
Ah. Mais tu sais que je suis à deux doigts de te faire défendre une affiche, toi. Hein. C'est peut-être moi qui vais juger ce soir. Hein. Si tu veux, il n'y a pas de problème, on peut.
Non, je profite d'avoir
son. Il reste Castres Montpellier si tu veux.
Qui était très bien. Hein.
Ah, Toulon-Lyon, défendu par David Gérard. Il a 30 secondes, David Gérard, pour défendre Toulon-Lyon. C'est parti.
Et oui, Toulon, magnifique ville. Un match sponsorisé par Jeanne Masse, bien sûr. Les Rouges et Noirs de Lyon face aux Rouges et Noirs de Toulon. Des Lyonnais qui sont venus avec des joueurs enfantés pendant 5 bonnes années par Pierre Mignoni et qui est allé s'exporter donc, sur la rade pour affronter ses anciens joueurs, son ancienne équipe qui est venu avec de l'ambition, qui est venu surtout pour essayer de se maintenir dans ce top 14. Et Toulon, sur les rails d'une qualification, qui était à la Bayonne, à Saint-Sébastien, fêtait déjà les futurs play-offs qu'ils vont vivre avec Pierre Mignoni. Voilà, Toulon sera un danger pour Toulon. Monde pour la suite et on l'a vu.
C'est donc terminé pour la plaidoirie de David Gérard. Ah, assez ouvert, hein, je sens ce soir. Ça a l'air assez ouvert ce haut de l'affiche. Rémi Mességué va devoir faire un petit classement dans sa tête. Est-ce qu'il est prêt le classement dans ta tête, Rémi?
Dans ma tête, il y a des choses qui se chevauchent, mais j'ai une petite idée, oui.
Alors on va commencer par qui termine à la troisième position. C'est à la fois la troisième marche du podium, mais aussi avant-dernier. Il y a des gens qui sont heureux d'être troisième et il y en a d'autres qui sont déçus. Alors qui finit troisième ce soir, Rémi Mességué, de ce en haut de l'affiche de la 23e journée du top 14?
Celui qui a fait le en haut de l'affiche pour la semaine prochaine déjà, Antoine Madère.
Qui n'est pas dernier?
Non, parce qu'il y a eu des choses chez certains qui m'ont dérangé plus que ça.
Antoine, réaction quand même, troisième place.
Victoire.
Je me sens presque soulagé.
Non, parce que voilà, vous n'avez pas écouté vraiment la plaidoirie. Voilà.
Je sens que vous. Classement.
Non, faites ce que vous voulez.
Mais le quatrième.
Ah bah attends, t'es, je te sens déçu, Antoine.
Ouais, je suis déçu.
Oh. T'es déçu de qui?
Oh, mais comment?
Comme dirait Ronan O'Gara, je ne dirai pas les noms.
Le torchon brûle en interne.
Ouais. Antoine Mazer très déçu d'être troisième. Bon, soit. Moi, je t'aurais mis à la troisième position aussi si ça avait été moi le juge. Donc, Antoine, si ça peut te réconforter.
Si c'est toi, ça va.
Ah, bah ça passe alors. Très bien. Merci, Antoine. Qui termine deuxième de son affiche, qui voit la victoire passer de très près, mais qui ne remporte pas.
Une inspiration sur Jeanne Masse mérite au moins une deuxième place. David.
C'est gentil, je te remercie.
Oh là là, oh, il va se passer quelque chose là. C'est que David, je t'aurais mis premier. Je commence à écrire dans la discussion de l'émission, David vous fume et en fait la fin est un petit peu rabotée là, tu vois.
Mais parce qu'en fait j'avais pas fini.
Ah oui, mais bah c'est 30 secondes, c'est 30 secondes.
J'avais pas fini. Ouais, comme j'avais pas le.
D'où la deuxième place. Si ça tombe parfait, c'est premier.
Ah, parce que oui. c'était bien travaillé. Non, hein. T'as mis du cœur. Hein.
Sachant que moi je suis à côté de lui, il n'y a rien d'écrit.
Moi personnellement, voilà. J'aurais mis premier, mais bon. Voilà.
Oh, c'est gentil. Non, mais je te remercie.
Ouais, profite, c'est
sachant que voilà, il est à côté de moi et je vois qu'il n'y a rien d'écrit.
J'allais dire que Toulon, avec serein, a gagné sans être serein.
Non, mais là, ça aurait été.
Là, t'étais premier tous les jours, mais.
Là, c'était premier. C'était premier. Trois autres quatrième.
Et oui.
C'était.
Bon. Rémi, c'est maintenant. Oh, je sais. Si vous voulez voir la tension qu'il y a en studio. C'est sur l'application Sud Radio et c'est sur sudradio.fr. Là, je peux vous dire que on est filmé, hein, et il y a de la tension, il y a beaucoup de tension. qui remporte ce rôle d'affiche de la 23e journée du Top 14? Quelle affiche était la meilleure affiche de cette 23e journée du Top 14? Est-ce Perpignan-Clermont défendu par Quentin Cabanis? Est-ce Racing 92 Bayonne défendu par Clément Combes? Il y aura un déçu, il y aura un loser. Qui est le winner de cette 23e journée? Rémi Mességuet.
Et je m'expliquerai sur le loser, mais le vainqueur est Perpignan-Clermont, Quentin.
Pourquoi? Il va s'expliquer, il a dit. Mais bon. Mais en tout cas, sachez que ça fait plaisir de retrouver ma couronne.
Et je vais m'expliquer.
Donc le gars qui était champion en titre est désormais un moins que rien.
C'est, c'est le très haut niveau. Il n'y a pas de place pour les petites erreurs. Fabien Sangoni ne joue pas au rugby. Je sais même pas si
j'ai dit Sangoni.
Oui, c'est Sangoni. Tout le monde l'a entendu. Ah,
t'as glissé, je suis.
Moi j'ai entendu Sangoni aussi.
Et ensuite, Clément,
fait du badminton,
il reste un petit truc. C'est très très écrit, Clément. C'est très très écrit. Du ciel est blanc, du ciel est blanc partout. On s'est presque perdu dans le ciel et blanc.
D'ailleurs, les Bayonnais ils sont pas ciel et blanc, ils sont bleu et blanc.
Après, attention, parce que quand, ciel et blanc, quand, même. Quand on parle de Bayonnais,
non, mais non, mais Bayonnais, le champ c'est les bleus, les blancs de l'aviron bayonnais. C'est pas les ciels et blancs. Oui. C'est pas Racing et du cœur, un cœur de vainqueur, tu vois, l'éléphant et tout le bazar. Non mais aucun jugement sur le Racing hein, de ma part ouais, évidemment.
Oui. Après on sait que t'aimes pas ce club.
Non, non absolument
non,
pas.
C'est pas vrai.
Non absolument pas. Bon Clément, quand même bon il va falloir rebondir Clément. Mais je sais que
c'est moi qui avais voté.
Oh, il a les boules. Ah vous pouvez voir il est dégoûté, il a les boules. Et n'empêche, tu perds sur un Sangoni. Tu perds sur un Fabien Sangoni et je pense qu'il va y avoir des cartons bleus tout le match. T'as pas intérêt à fourcher, Rémi Mességuet.
Non, mais y a pas de soucis. Y a des mecs qui finissent devant moi qui font les affiches de la semaine prochaine. Donc, bon, c'est.
Et donc, moi, là, donc Antoine Mazer prend une balle au passage. Allez hop. Ouais. Ah bah.
Je donnerai ma fiche pour le consolation.
Dans ce groupe, moi, ce qui m'a gêné sur Sangoni, c'est que Clément, c'est très écrit. C'est très écrit, donc il y a de la préparation. Et fourcher sur un commentaire en live, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Mais quand c'est écrit,
il y a 30 secondes.
Je suis Baudon en enregistrement. Je suis Baudon en enregistrement même. Je pense qu'il était de mèche avec Quentin à s'enregistrer depuis ce matin.
Même pas. Wow. Il faudrait pas qu'on travaille trop non plus.
On fait donc le classement. Vainqueur Quentin Cabanis, les honneurs qu'on le couvre d'or. Deuxième David Girard pour sa première. Troisième Antoine Mazer. Quatrième le stagiaire.
La logique est respectée.
Finalement
ouais, il y a quand même un doute. Ouais, Clément voilà. Combes qui est forcément très déçu ce soir avec un maillot de Liverpool. Bon.
Ça y est.
Ah mais ça, heureusement que vous ne me l'avez pas dit avant parce que c'était quatrième sans écouter la plaidoirie. Hein,
non mais.
Attends, il est très bon par contre.
Pourquoi ça? Parce que Liverpool a mis 5 buts au TFC en field. Voilà,
oui,
tout simplement.
Ça, c'est
gratuit. Voilà. Faut pas faire d'erreur hein, comme ça. Quand je suis juge, pas d'erreur. Le très haut niveau, on a dit Clément.
Le troisième débat arrive sur Sud Radio. Montpellier doit-il rester en top 14 pour le bien du championnat, pour le prestige du championnat? C'est une question évidemment un petit peu provoque, mais qui mérite d'être posée parce que on parle d'un club avec des internationaux à tous les postes, on parle d'un staff digne d'une grande sélection, hein. On parle d'investissement massif, d'un bouclier de Brennus en 2022. Mais alors vraiment, est-ce que Montpellier mérite de descendre? C'est la question qu'on se pose avec Marco, supporter du MHR, supporter de Julien Thomas même. Bonsoir Marco. C'est pas Marco Tolène quand même qui est avec nous là.
Non, c'est pas Marco Tolène.
Bon Marco Patolène.
Non, alors. Tolène, non mais, j'aime beaucoup Marco Tolène. C'est super joueur, c'est super gars.
Bienvenue sur Sud Radio Marco, amoureux de rugby, auditeur Sud Radio Rugby. Montpellier doit-il rester en top 14 pour le bien du championnat, pour le prestige du championnat? C'est la question qu'on te pose Marco.
Est-ce que Montpellier doit rester en top 14? Montpellier restera en top 14, il le mérite. Et à un moment donné, on ne peut pas s'octroyer des mérites comme ça en disant pour le bien du championnat, il faut qu'une équipe reste ou pas. L'équipe reste en top 14 si elle le mérite. Là pour l'instant c'est un peu compliqué, il y a encore un an derrière nous quand même, et on semble aller tout droit vers l'accès ce match, on verra bien. On a encore une petite chance de l'éviter, infime chance de l'éviter, je pense qu'il faut, il faut tout jouer, et que après ben, si c'est l'accès ce match qui nous est promis, ben, il faudra le préparer comme une vraie finale et montrer ce dont on est capable pour se sauver quoi, pour sauver notre peau. Après, le championnat, est-ce qu'il sera meilleur avec Montpellier en top 14 ou pas en top 14? Bon, évidemment que moi, en tant que supporter montpellierain, je préfère le top 14 avec Montpellier dedans, c'est évident.
Ah bah bien sûr. Voilà. Parce que c'est vrai que ça ferait bizarre quand même, le MHR avec avec des joueurs internationaux partout, avec un staff de dingue, avec de l'argent, avec des investisseurs. T'imagines ça en Pro D2, toi, David Gérard?
Mais écoute, moi je vais dire que c'est le sportif qui va guider tout ça. Aujourd'hui, Montpellier n'est pas dans les
coups. Évidemment.
Rempli d'internationaux ou pas. Regarde Lyon, rempli d'internationaux aussi. Ils ne sont pas dans les coups aussi. Ils ne sont pas loin aussi des places qui les amèneraient vraiment vers l'enfer de la Pro D2. Mais voilà, après, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Regarde où il y en a. Ils sont déjà en train de recruter pour l'an prochain en Pro D2. Ils vont arriver, ils vont être encore plus costauds qu'en top 14. Il va y avoir aussi des internationaux en face. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est le sportif qui guide. Hein. Que ce soit Montpellier ou pas, même s'ils ont été champions il y a 2 ans, aujourd'hui ils ne méritent pas, pour l'instant en tout cas, de se sauver.
Est-ce que Montpellier est l'image d'un accident perpétuel durant cette saison? D'ailleurs, un accident perpétuel, c'est un petit peu un pléonasme, enfin un oxymore pour le coup, puisque un accident, c'est pas censé se reproduire comme ça à volo pendant tout le match, mais pendant toute la saison, toute l'année. Mais quand même, Rémi Mességuier, quand on regarde l'UBB, a des internationaux, ça fonctionne très bien. Montpellier a plein d'internationaux, a un super staff, ça fonctionne beaucoup moins bien. C'est-à-dire que est-ce vraiment de l'accidentelle, ou est-ce à l'image du nouveau top 14, de ce top 14 2023-2024, où malgré un staff de fou, malgré des joueurs de fou, tu peux quand même être à la bataille pour le maintien, tout comme Lyon par exemple, hein?
Ben déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce top 14, il est différent parce qu'il y a eu une Coupe du Monde en début de saison. Donc les internationaux, déjà, ils ont pu subir un
coup. Donc c'est une année spéciale.
C'est une année spéciale. Après, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué hier. Donc on était à Castres pour Castres-Montpellier. On va pas se mentir, Montpellier, s'il gagne cette rencontre, il y a pas non plus, c'est pas non plus un vol. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est les discours après le match en conférence de presse. On a eu un Patrice Collazo qui est venu, et pour lui, le mot barrage était complètement tabou. Il n'y avait pas question de barrage, il disait c'est encore possible qu'on soit qualifié, qu'on soit directement maintenu, etc. Par contre, on a eu Marco Tolègne et Léo Colli, et là par contre, les joueurs, ils sont focalisés sur ce barrage. Ils parlent quasiment déjà que de ça. Donc en fait, il y a déjà 2 sons différents qui viennent du staff et des joueurs. Au bout d'un moment, quand la communication ne passe pas, l'accident, il est normal.
Marco, supporter du MHR, c'est quand même bizarre. C'est vrai que... Est-ce que tout le monde est vraiment mobilisé en même temps, là?
Que le staff y croit encore dur comme fer et soit là pour motiver ses joueurs et donner aussi une impression de sérénité pour s'en sortir, ça ne paraît pas déconnant. Après, que les joueurs eux-mêmes soient lucides de la situation et se disent qu'ils sont prêts à tout, y compris de se battre pour essayer de remonter à 12e place, ou éventuellement de jouer un barrage et de ce barrage d'être à fond dedans pour sauver le club, c'est compréhensible aussi. Les deux discours ne sont pas forcément antagonistes. Voilà, je pense en tout cas.
Et Marco, alors aucun jugement de ma part, hein, mais on sait que le MHR, c'est pas le club où il y a des supporters les plus fervents du top 14. Est-ce que ça ferait vraiment du mal plus au MHR qu'à d'autres clubs de descendre en Pro D2?
Alors il y a quand même un noyau de jeunes qui suivent Montpellier, et ce noyau-là restera. Il y a du monde à se battre à l'époque. Voilà, après, on aime à dire que Montpellier, c'est pas un club, que si, que c'est un club qui est jeune, que c'est pas le rugby, que dans les pros c'est pas le rugby, que dans le conscient c'est pas le rugby. On a toujours entendu ça. Nous, on a toujours évolué de notre côté, et on laisse aboyer les autres. Hein. Je veux dire, nous, le rugby, écoutez, le titre de 2022, personne ne pourra nous l'enlever. Il y en a qui aimeraient qu'on ne l'ait pas eu, on l'a eu. Et maintenant, nous, on va se resserrer sur nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire, on va se resserrer sur nous-mêmes, on va essayer de tout donner pour les 3 derniers matchs. Ma foi, si on doit jouer un accès de match, et attendez, il y a Oudona hier qui peut aussi nous rattraper, donc il faut prendre tous les matchs avec beaucoup de sérieux, et puis vraiment préparer cet accès de match comme il faut, et c'est un match de la mort, ce match de la mort, il faudra l'emporter, il n'y aura pas le choix, c'est comme ça. Voilà. Après, je pense qu'on a des forces quand même, on a un pack conquérant, je pense que ça c'est important. Ce qui nous manque en ce moment, c'est un peu de lucidité, peut-être à la main. Peut-être qu'effectivement, je vois encore le match de casse ce week-end. On a un drop à taper pour gagner. Ce drop, on va le taper sur le mauvais pied du petit colis, alors que 30 secondes avant on est face au poteau. Il y a des... on sent qu'on manque un peu de confiance et que ce manque de confiance nous fait un petit peu déjouer, j'ai l'impression. Voilà. Et ouais. alors que les occasions, on les a, parce que effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, si on gagne à Castres, il n'y a pas de scandale, quoi. Il n'y a pas de scandale, hein. Sur le match qu'on a
merci.
Fait.
Merci Marco d'avoir été avec nous sur Sud Radio et bon courage eh bien, au MHR pour cette fin de saison. Merci d'être un auditeur fidèle de Sud Radio Rugby. Merci. On rentre les pieds dans le plat. Là. Ça y est, Stade Toulousain, Stade Français Paris, c'est le grand classique. C'est un classique au sommet. Avons-nous aujourd'hui un avant-goût d'une potentielle finale du top 14? Pour en parler, on avait Grégoire, supporter toulousain et gagnant d'ailleurs des places Sud Radio la semaine dernière. Salut Grégoire.
Salut.
Bienvenue sur Sud Radio, t'es Ernest Vallon. Et puis on est aussi avec Thibaut de Paris, qui n'est pas Ernest Vallon mais qui est supporter parisien. Salut Thibaut.
Salut la team Citadel, salut Alexandre.
J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on a, un avant-goût d'une potentielle finale du top 14? Est-ce que c'est un match classique d'une saison où on a la sensation que si c'est ça au Vélodrome fin juin, on sera pas surpris? Comment on voit ce match, Grégoire?
Oui, c'est déjà tout d'abord merci à Sud Radio pour ces superbes places. C'est un match qui a un gros enjeu et je pense que ça va se jouer très dur jusqu'à la fin de la partie.
Parce que là, Grégoire, là t'es dans les buvettes, enfin t'es à la buvette ou t'es déjà installé au bord du terrain là?
Alors je suis parti à la buvette parce que je vous entendais pas bien dans le stade, il y a trop d'ambiance.
Ah oui. Stade. On va essayer de faire vite avec toi quand même pour que tu puisses profiter de l'avant-match comme il le faut, Grégoire. Thibaut, c'est vrai que c'est un classique au sommet. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus ce parfum là du grand classique du rugby français, mais avec un véritable enjeu, avec une véritable position au classement qui signifie que les deux clubs sont les meilleurs en fait du championnat.
Oui, actuellement ce sont les meilleurs puisque c'est le deuxième qui reçoit le premier. Tu es sûr que Grégoire, il était à la buvette ou il a pris des melons comme le Stade Toulousain, un peu une meloniste générale?
Moi, je peux bien lancer. Il est là pour se faire des amis, Thibaut.
Je m'en fiche. Moi, je défends mon club, donc chacun défend son club. j'ai fait un petit tac là, un petit carton, pas de carton jaune, mais voilà. Mais je suis content aussi de parler à David Gérard, qui a fait un super parcours avec le Portugal, et je crois qu'il a joué au Stade Français aussi, d'après mes souvenirs.
Non, j'ai joué au Racing.
Il a pas joué au Stade Français.
J'ai joué au Racing.
Et au Stade Toulousain.
Non.
Il a joué au Stade Toulousain, ça je sais, mais il n'a pas joué au Racing.
Deux clubs que tu n'apprécies pas trop, quand même, Thibaut. Non, attention.
J'étais capitaine du Racing.
C'est pareil.
Il y a eu la fusion ou pas, de toute façon?
Non, on va pas parler de ces conneries là.
À 10 bornes près, 10 km près, ça passe.
tu l'aimais bien.
Pour ta question originelle, Alexandre, moi je suis un peu dubitatif sur la compo qu'a sorti Gézal et Labitte. Je pense que...
Ah t'inquiète, du côté de Toulouse, c'est aussi remanié, hein, bien évidemment. Hein.
Ouais, mais ils ont trois équipes ennemies. Ils ont trois équipes ennemies, ils ont un bon triple XL, Toulouse. Donc je pense que plutôt le staff a misé sur le match de la semaine prochaine.
C'est une impasse là du Stade Français, là, Thibaut?
Moi, vu la première ligne alignée du Stade Français face à la première ligne alignée de Toulouse, qui est la première ligne quasiment de l'équipe de France, moi j'ai un peu peur, hein. Franchement, je te dis honnêtement, j'ai un peu peur malgré que je chambre un peu les Toulousains. Si on peut les taper, puisque au niveau des stats depuis ce match, ils ne gagnent pas contre nous. Parce que c'est Toulouse, parce que c'est le club le plus vrai en France. Ce soir, c'est les deux clubs les plus différents en France qui se rencontrent. C'est Classico des Stades, c'est Capitol contre Capital, c'est Chocolatine contre Pain au Chocolat, c'est la province contre Paris, et voilà quoi.
La province contre Paris. Ah là, tu vas avoir des problèmes, Thibaut. Grégoire, il faut défendre ta maison là. Est-ce que le Stade Toulousain affronte une équipe qui fait une impasse là, le Stade Français Paris?
Non, je ne pense pas qu'elle fasse une impasse. Après, c'est toujours compliqué de venir jouer chez nous.
Donc forcément ça va être dur. Nous on joue quand même deux compétitions, on joue les deux compétitions, ça va être un peu compliqué. Est-ce qu'on va faire une impasse sur le match, je sais pas, mais je pense que ça va être un match qui va être avec beaucoup d'enjeux, du début jusqu'à la fin. Et grâce à notre banc, on va réussir à faire la différence.
Le banc pourrait être déterminant. On va détailler évidemment tous les joueurs qui seront présents sur le terrain ce soir. Merci Grégoire. Merci Grégoire et Thibaut, supporters toulousains et supporters parisiens, avant cette rencontre, puisque le grand classique c'est tout de suite sur Sud Radio avec David Gérard et Rémi Mességuier.
Ça s'est passé sur Sud Radio.
Quand un gamin casse une voiture et que une demi-heure après les policiers sont obligés de les laisser ressortir parce qu'il n'y a pas lieu de poursuivre soi-disant, forcément le surlendemain il les retrouve dans la rue pour recommencer la même opération. Plus on laisse faire et plus on s'autorise des choses. Si on commence à autoriser les enfants à laisser leurs papiers par terre, le lendemain on va les autoriser à cracher sur leurs voisins et le surlendemain à leur mettre une baffe et le sur-surlendemain à prendre une barre de fer pour leur taper sur la figure.
Sud Radio, parlons vrai.
Alors nous on voudrait une cuisine
avec des tiroirs qui font chut.
Mais pas trop quand même.
Un bruit silencieux quoi.
Voilà.
Avec Socook, tout est clair pour votre